Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Canal Académie reçoit aujourd'hui Benoît Meyer pour son dictionnaire du football aux éditions Honoré Champion. Le football s'exprime bien évidemment par le geste et de préférence par le beau geste, mais le sport préféré des Français s'est pourvu au fil des années d'un véritable jargon, d'un richissime babélisme qu'il faut apprendre à connaître. Si je vous dis que le numéro 10 de l'équipe de l'Albicéleste, véritable métronome qu'on a souvent qualifié de danseuse, il faut dire que ses adversaires ne l'ont pas épargné en caramel, a offert un caviar à son coéquipier qui, en renard des surfaces qu'il est, a crucifié le dernier rempart grâce à une praline en pleine lunette. Les aficionados ont alors joué jusqu'au bout leur rôle de 12e homme en saluant comme il se doit cette maestria de toute beauté. Je suppose que vous, Benoît Meyer, vous avez tout compris à cette petite envolée lyrique. Eh bien, pour ceux qui n'auraient pas saisi le sens de mes propos ou qui auraient confondu ce commentaire footballistique avec un poème de Mallarmé, je vous invite à vous plonger dans le dictionnaire du football aux éditions Honoré Champion, que nous allons évoquer ici dans cette émission en compagnie de son auteur Benoît Meyer. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes donc enseignant en lettres et en histoire dans un lycée professionnel à Sarcelles. La première question qui me vient, c'est outre l'amour du football, d'où vous est venue cette envie d'écrire un dictionnaire ?
Cette envie d'écrire un dictionnaire est surtout le fait d'une rencontre avec M. Pruvot, qui est directeur éditorial de chez Honoré Champion et qui est prof à l'université de Cergy-Pontoise. Cet enseignant qui est le chargé de direction de thèse de mon épouse m'a proposé, on avait déjà travaillé ensemble sur deux dictionnaires, de faire un dictionnaire du football. Il recherchait un passionné des mots et un passionné du football. Donc on a travaillé ensemble le projet et je me suis mis à écrire il y a à peu près 2 ans sur ce dictionnaire.
Et alors combien de mots à peu près trouve-t-on dans ce dictionnaire?
Alors au niveau des noms communs, il y a à peu près 1700 mots que j'ai recensés à travers soit mes lectures, soit la presse sportive ou bien les commentaires sportifs à la télé.
Et d'ailleurs en parlant de presse sportive, vous signalez dans votre avant-propos le travail de Robert Galisson qui lui donc s'est basé sur plus de 1800 numéros de journaux pour mener une étude sur le vocabulaire du football. Je suppose que vous aussi, vous faites très attention à ce que disent les commentateurs aujourd'hui ou les amoureux du football dans les médias.
Mais tout à fait. Lorsque je lis sur le football ou que j'écoute des commentaires de match, je suis très attaché à écouter ce que disent les journalistes et en particulier le vocabulaire qu'ils utilisent. Parce qu'on voit qu'il y a des nouveaux mots qui apparaissent dans le football régulièrement et certains qui disparaissent. Donc j'essaie de faire le point globalement lorsque je travaille sur le football sur tous ces mots.
Est-ce que vous pensez, Benoît Meyer, que les passionnés ou non de football, finalement, ne maîtrisent pas tout ce vocabulaire? Il y a quelques mots qu'on connaît forcément, mais il y en a beaucoup qui sont peut-être inconnus, même aux passionnés.
Alors, je pense qu'au niveau des passionnés, ils ont toujours un vocabulaire qu'ils utilisent chaque jour. Mais l'intérêt de ce dictionnaire, c'est surtout de revenir aussi un petit peu en arrière et voir que le football a évolué et donc son vocabulaire, automatiquement, avec le temps, lui aussi a évolué. Par exemple, dans le temps, on parlait d'inter pour les ailiers, on parlait de demi pour les milieux. C'est un vocabulaire qui a complètement disparu de la presse sportive.
Et alors, ce qu'on remarque aussi dans votre dictionnaire, Monsieur Meyer, c'est que finalement, le vocabulaire du football est nourri de différents champs lexicaux. Alors, il y a beaucoup de noms d'animaux, je pense à canarder, au cou du crapaud, etc. Et donc, on peut dire que le football s'inspire de tous les champs lexicaux.
Oui, en effet, tous les champs lexicaux, mais surtout sur le champ lexical militaire. Si on regarde bien, la majorité de ces mots du foot, c'est tout simplement une attaque, une défense, au départ, le principe du jeu. Et on voit que tous ces mots viennent souvent du lexique militaire. Attaque, défense, les zones, mitrailler l'adversaire ou crucifier le gardien. Tout ça, c'est des mots un petit peu militaires, voire violents, que l'on propose donc aux passionnés de football.
Et il y a aussi, on remarque dans toutes les définitions que vous donnez, un brassage avec différentes langues. La langue italienne est beaucoup présente. Et je crois que vous signalez aussi qu'à l'origine, on ne parlait du football qu'en anglais et que finalement, la langue française aussi a pris le dessus, a su apprivoiser ce sport.
Oui, au début, toutes les règles venaient d'Angleterre. Le football a été vraiment codifié en 1863 à Cambridge. Et les premiers clubs, même en France, usaient d'un vocabulaire anglais. Et il y a même l'exemple d'un club qui s'appelait les Black Rovers, qui était à Paris en 1891, qui demandait à tous ses joueurs d'utiliser l'anglais lors d'une rencontre de football. Donc petit à petit, le français a trouvé des équivalents et s'est inséré dans la langue du football.
Et alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Benoît Meyer, on peut encore réinventer des mots pour parler du football ?
Oh bien sûr, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Les mots disparaissent, des nouveaux mots apparaissent, donc le football fait partie de la société, donc le champ est ouvert pour tout vocabulaire. Les néologismes font leur apparition régulièrement dans le football.
Et par exemple, là nous sommes en pleine Euro 2012, est-ce que ces grandes occasions ne sont pas justement le moyen de se lâcher, d'aller inventer pourquoi pas des nouveaux mots qui porte le nom des joueurs aussi, parce que je pense à Madjer, Panenka. Est-ce qu'un jour on dira une Zidane ou une Ben Arfa, par exemple ?
Alors, pour Zidane, moi j'ai trouvé, par exemple, on a pas mal d'adjectifs, un tir zidanien, un dribble zidanien ou un coup franc platinien. Donc, s'il y a un joueur qui se révèle et qui fait un exploit comme Panenka l'avait fait en 1976, un exploit à la fois esthétique et marquant pour son équipe, pourquoi pas avoir bientôt une Nasrinade ou pourquoi pas une Gourcuffade, bien qu'il ne soit pas à l'Euro.
Et alors, on va prendre quelques mots de ce dictionnaire. Monsieur Meyer, par exemple, il y a la définition du Toto Nero. Et vu que l'actualité nous relie à ce mot, et c'est tout à fait intéressant que vous en parliez, puisque je suis sûr que beaucoup de gens ne savent pas ce que signifie ce mot. Est-ce que vous pourriez nous en donner la définition ?
Alors, le Totonero, c'était un problème de paris clandestin avec des joueurs en 1980. Et ça a beaucoup marqué l'Italie, parce que l'un de leurs principaux attaquants à l'époque, Paolo Rossi, qui a été vraiment la star du Mondial 82, avait été suspendu pendant 2-3 ans pour des paris illégaux sur des matchs.
Et donc aujourd'hui, malheureusement, ce terme est revenu d'actualité.
C'est revenu d'actualité. Là, je n'ai pas suivi aujourd'hui où en sont les recherches pour la justice italienne. Mais l'Italie risque d'avoir encore des joueurs suspendus et surtout un championnat qui est totalement galvaudé par ces paris illégaux.
Et il y a un autre terme aussi dont vous donnez la définition, c'est le naming. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le naming ?
Alors, le naming...
Parce que là aussi, on est proche du vocabulaire.
Alors le naming, bien que l'Académie française nous propose le mot nommage, le naming en fait c'est le sponsoring, le partenariat d'une entreprise privée pour un club sportif ou surtout pour ses infrastructures. Et en fait on s'aperçoit que dans les faits, les stades de football maintenant portent le nom d'entreprise. On a l'Emirates Stadium à Arsenal, on a la MMA Arena au Mans et ça va se multiplier dans les années qui viennent, pour avoir plus de finances privées dans les clubs afin d'avoir des infrastructures au top. Et le naming, en fait, c'est apparu dans les années 1920 avec Philips, qui a pris en charge l'équipe d'Eindhoven, le PSV Eindhoven, qui en fait, ce club a été détenu et est toujours détenu par Philips.
Et est-ce que, Monsieur Meyer, ce dictionnaire aussi n'est pas un prétexte pour finalement briser cette image qu'on peut avoir du football ? Que c'est un sport de voyous, que finalement on parlerait du foot qu'en argot. Et on remarque qu'il y a des mots aussi poétiques pour parler de ce sport.
Tout à fait, moi qui suis grand lecteur de littérature, de romans noirs en particulier, beaucoup d'auteurs s'inspirent, parlent du football dans leurs romans, des grands auteurs. Là j'ai lu dernièrement du Caril Ferret, auteur de romans noirs, qui nous parle du football en Argentine à travers un très bon polar. Il y a des très grands écrivains anglais comme David Peace qui ont écrit des livres entièrement sur le football. Et donc, je ne vois pas pourquoi le football ne trouverait pas sa place dans une bonne littérature.
Vous citez par exemple Jean-Paul Sartre, une phrase de Jean-Paul Sartre qui fait référence à ce sport. Et alors, on a oublié de le préciser, mais ce livre est quand même préfacé par Lilian Thuram, un grand champion, un personnage aussi qui véhicule beaucoup de qualités en dehors du football. Ça vous a touché qu'il accepte de faire cette préface ?
Oui, j'étais très ému que Lilian Thuram accepte de faire ma préface, parce que pour moi, il représente déjà un champion du monde en 98. J'avais le souvenir de cette fabuleuse soirée où il marque deux buts contre la Croatie, chose très étonnante de sa part. Et d'avoir pu rencontrer M. Thuram et d'avoir eu une discussion à la fois sur le football et sur la société, sur l'humanisme dans la société, oui, ça a été une grande émotion pour moi.
Il signe donc, Lilian Thuram, la préface de ce livre et parle de reliance, en citant d'ailleurs François Tcheng de l'Académie française. Et ne pensez-vous pas, Monsieur Meyer, que cette reliance, finalement, peut passer aussi par les mots, par un langage commun fait d'images, de comparaisons.
Mais il est évident que dans une équipe de football, ce qui prime, c'est le collectif. Donc le collectif, je pense qu'il peut se passer totalement de la, entre guillemets, de la langue maternelle des gens. Je pense que chaque équipe a son langage, a sa façon de procéder. Et donc oui, le foot, à mon avis, est un vecteur d'union entre ces gens-là. Parce que lorsqu'on pratique du foot avec des gens qui ne parlent pas notre langue, on n'a aucune difficulté à se faire des passes et à marquer des buts.
Et alors, ce dictionnaire s'adresse aussi bien à ceux qui maîtrisent et qui connaissent le football, mais même ceux-là seront surpris de trouver toute une liste de clubs. Alors j'imagine que là, le travail a dû être énorme, puisqu'il y a un travail aussi historique. Vous avez recensé combien de clubs?
Alors 170 clubs. Tous les clubs français qui au moins ont participé une saison en Division 1 ou en Ligue 1 depuis 2003, ou qui ont gagné une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, et ensuite des clubs sud-américains et africains qui ont été champions d'Afrique ou champions d'Amérique du Sud.
Donc il y a beaucoup de clubs qu'on ne connaît pas, enfin, ça dépend aussi des générations, qu'on ne connaît pas, mais qu'on a plaisir à découvrir. Et vous citez à chaque fois le palmarès, l'histoire du club, les couleurs du club. J'imagine que vous avez mis combien de temps à faire toutes ces recherches?
Oh, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à faire toutes ces recherches. Bon, j'avais déjà des connaissances sur le football. Je me suis toujours intéressé à l'histoire du foot, à ces clubs. Mais là, j'ai dû mettre 1 an et demi à recenser tous ces clubs, certains qu'on a totalement oubliés ou qui n'existent même plus.
Alors lesquels par exemple?
Par exemple, quand on regarde, Béziers a eu un club qui jouait en Division 1 dans les années 50, alors que Béziers, on en parle comme une ville de rugby. Ou alors des clubs de Paris qui ont disparu, qui sont revenus, comme le Matra, hein, et qui aujourd'hui jouent en CFA2.
Et justement, vous, Monsieur Meyer, quel club vous touche particulièrement? Quel club vous avez suivi depuis votre tendre enfance?
Alors, depuis ma tendre enfance, j'ai été habitué à aller avec mon père au stade Marcel Saupin, puis à la Beaujoire, c'est vraiment le football club de Nantes, qui pour moi représentait, il y a une dizaine d'années, ce qui se faisait de mieux en matière de jeu de football, de circulation de ballon, et d'envie toujours de faire progresser le ballon en mouvement, et bien sûr un football offensif.
Et justement, sur le point de vue de la tactique, donc le jeu des Nantais a évidemment été une référence. Vous citez aussi, par exemple, les premières tactiques du football qui sont assez étonnantes. Expliquez-nous, maintenant on parle d'un 4-4-2, voilà. Et à l'origine, c'était du football offensif
Mais c'était total. Ultra offensif, c'est-à-dire que les premières tactiques, c'était du 1-1-8, c'est-à-dire il y avait un défenseur, un milieu, 8 attaquants. Hein, aujourd'hui, ça paraîtrait totalement ubuesque de mettre 8 attaquants, un milieu, un défenseur. Et les premiers joueurs de football étaient 8 attaquants et on se faisait très peu de passes. C'est-à-dire qu'on appelait surtout le dribbling game. On avançait avec le ballon le plus près du but. Il n'y avait pratiquement pas d'organisation collective.
Et aujourd'hui, les entraîneurs aussi ont amené à ce que le foot se transforme, évolue, mais peut-être qu'aussi ils ont amené un nouveau vocabulaire, justement, en inventant des nouvelles tactiques.
On l'a vu dans les années 30, les Suisses ont inventé ce qu'on appelle le verrou, c'est-à-dire on bloque complètement avec 5 défenseurs. C'est devenu le catenaccio à l'italienne dans les années 60-70, où là on a ce qu'on peut dire des défenses bétonnées. Il était très très dur de remonter un but quand les Italiens avaient marqué un but. On disait que le match était terminé. Voilà.
Ça, c'est la sale image qui a collé aux Italiens pendant
tout à fait
des années. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Meyer, de nous avoir fait part de ce dictionnaire du football, donc aux éditions Honoré Champion. Un dictionnaire qui s'adresse aux passionnés de football, mais à tous ceux aussi qui aimeraient découvrir des mots qui se rapportent forcément à ce sport, mais des mots aussi qui ont quelque part de la poésie et qui ont une charge historique qu'il est toujours intéressant de découvrir. Merci à vous. Donc, je rappelle que ce dictionnaire est disponible depuis début mai.
Merci.